Agitez votre brumisateur et entrez dans les magazines du 90.7.
Vous écoutez Brume.
Tout de suite, les magazines. Brume défriche pour vous l'actualité culturelle. Tout de suite, les magazines.
Brume vous présente maintenant un magazine spécial autour de la fête de la science 2014. Brume 90.7, nouvelle étape de notre série consacrée à la fête de la science. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Claire Barty et Mathias Schocker, qui sont respectivement assistants ingénieurs et enseignants-chercheurs à l'Université Lyon 1 au sein du laboratoire MAP, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Bonjour.
Alors, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, MAP, je vais vous laisser expliquer ce que c'est. C'est microbiologie, adaptation et pathogénie, c'est ça ?
Absolument. C'est un laboratoire donc, de l'Université Lyon 1 qui est tutelle donc, de ce laboratoire avec le CNRS et l'INSA. Nous sommes à peu près une soixantaine donc de personnel de ce laboratoire à travailler sur les micro-organismes de type bactéries, levures et moisissures. La plupart des équipes de ce laboratoire s'intéressent aux maladies, que ce soit des maladies qui touchent l'homme ou les plantes, mais également à d'autres aspects de la microbiologie. Et deux équipes de ce laboratoire s'associent pour présenter au grand public les levures et moisissures. Ce sont des champignons microscopiques qui ont un impact fort sur la société, sur l'environnement. Et nous souhaitons présenter les aspects à la fois d'utilité et de nuisibilité de ces micro-organismes. Ce sont des micro-organismes qui sont encore un peu méconnus du grand public, même si on voit de plus en plus, par exemple, des reportages qui traitent de ces micro-organismes, et pourtant leur impact sur notre vie quotidienne est très, très important. Il y a des maladies qui existent, qui sont dues à ces levures ou à ces moisissures, qui impactent autant l'homme que les plantes cultivées, donc notre agriculture. Qui peuvent aussi détériorer des matériaux. Et puis, il y a aussi les aspects d'utilité. Le plus connu, c'est évidemment l'utilisation des levures pour les fermentations, fabrication du pain, etc. Et puis, d'autres utilités en industrie, la production de métabolites d'intérêt. Mais ma collègue vous en parlera peut-être plus en détail.
Alors juste pour terminer un petit peu sur ce laboratoire, concrètement comment ça se passe en fait ? Vous avez à la fois des chercheurs, aussi des étudiants en thèse.
Absolument, donc nous accueillons des étudiants en thèse hein, pour travailler sur ces micro-organismes, bactéries, levures ou moisissures. Nous avons aussi la particularité de développer un partenariat avec une entreprise privée, la société Bayer. Une start-up est issue de notre laboratoire, la start-up Conidia. Et donc, nous sommes en lien avec également le tissu industriel sur l'importance de ces micro-organismes.
D'accord. Du coup, je vais vous donner la parole pour présenter un petit peu le projet. Alors concrètement, ce que vous montrez au grand public pour la fête de la science ?
Alors oui, notre projet, nous l'avons intitulé « Il n'y a pas que du pourri dans le moisi ». Parce qu'on pense qu'effectivement, le grand public voit surtout le côté négatif des moisissures. Mais il y a aussi, et c'est ce qu'on veut montrer, le côté positif. Sans moisissures, il n'y aurait pas de fromage, il n'y aurait pas de saucisson, il n'y aurait pas de vin, pas de bière, pas de pain. Et puis, quelque chose de très important, c'est la production d'antibiotiques au niveau médical. Sans moisissures, pas de pénicilline. Et d'autres, céphalosporines aussi. Enfin, et les moisissures sont aussi utilisées pour produire plein de molécules utilisées au niveau arôme, des molécules qui sont utilisées dans les lessives. On utilise aussi la présure fongique pour certains fromages cachers. Voilà, donc on souhaite montrer tout l'intérêt positif de ces moisissures et non pas le côté que négatif. Et puis la grande diversité, parce que les moisissures, c'est très beau visuellement. On a un panel de couleurs et d'aspects très variés et c'est superbe. Et aussi bien en macroscopie, c'est-à-dire à l'œil nu, et au cours de ces ateliers, on va aussi montrer sous le microscope pour montrer la diversité des choses. Et on est même partenaire avec le centre de microscopie électronique de l'Université Lyon 1 qui montrera ces moisissures au microscope électronique, et ce qui, je pense, risque d'impressionner bien des gens.
Et alors, concrètement, comment ça va se passer un petit peu, du coup, donc vous ouvrez le laboratoire ou ça se passe dans des salles de l'Université Lyon 1 ?
Donc, ça se passe, en fait, sur une plateforme de TP de microbiologie située au bâtiment Darwin A, au campus de la DOI. Et donc, nous accueillons le jeudi et le vendredi les scolaires. Nous avons déjà 300 élèves d'inscrits pour ces deux journées donc, d'accueil des scolaires. Et enfin, le week-end du 11 et 12 octobre, où là, nous ouvrons au grand public l'occasion de présenter donc, aux familles, également aux enfants, cet aspect des micro-organismes de type levure et moisissure.
Et là, ça va être, du coup, les personnes vont passer, il va y avoir des petits ateliers, des choses comme ça, des projections.
Peut-être des projections, il va y avoir des posters traitant de tous ces aspects et les personnes pourront utiliser un microscope pour bien visualiser toutes ces petites bêtes, on va dire, enfin qui n'en sont pas d'ailleurs. Et nous serons ouverts de 10h à midi et de 14h à 17h.
Et est-ce que les gens doivent s'inscrire ou quelque part ?
Non, c'est porte ouverte, entrée libre.
Alors, vous avez un site internet ou quelque chose, si jamais des auditeurs sont à la fois intéressés pour passer ce week-end de fête de la science, mais même souhaitent avoir des renseignements sur votre laboratoire ou sur ce qui se passe à l'Université Lyon 1
Effectivement, nous avons créé une page dédiée à notre animation qui est sur le site internet de notre unité. Donc il faut aller chercher l'unité MAP, donc nous sommes l'UMR 5240, si les gens veulent trouver notre site internet et la page dédiée à l'animation pour la fête de la science.
Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu présenter
Merci à vous.
Votre
Merci
projet.
À vous.
Et puis, bonne fête de la science alors.
Merci.
Oui, on espère, on attend plein de monde.
Brume défriche pour vous l'actualité culturelle. Tout de suite, les magazines.
Hurt by the mistakes of the past, he drinks to forget where he comes from. And when he turns away from our looks, the weight of his steps covers his pain in the ground. Every night, closing his eyes, riding up to the moon. He rides up above to the moon, but no, he's never reached it. And after all these years, still he tries. Most welcome, 'cause he's feeling all alone tonight in his dark meanders. His life is full of regrets, and in order not to sink, he dreams up a new life. Every night, closing his eyes, riding up to the moon. He rides and he rides and he rides up above to the moon, but no, he's never reached it. And after all these years, tries.
Brume 90.7, suite des entretiens consacrés à la fête de la science. Et aujourd'hui, nous recevons mesdemoiselles, mesdames, Béatrice Rayet, gestionnaire du Lab Exprime, et Camille Chalot, représentante de l'association Les Maisons du Paris.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, merci d'être dans les locaux de Brume pour nous présenter alors à la fois les structures, parce qu'il y a 4 structures qui font partie du projet, et en même temps le projet qui se raccorde à la fête de la science.
Oui, en effet, donc nous avons 3 projets qui sont issus d'une collaboration entre 3 laboratoires d'excellence et une association de patients, les Maisons du Paris. Donc, ça, je laisserai Camille en parler. Mm-hmm. Donc, s'agissant des laboratoires d'excellence, qu'on appelle aussi l'ABEX, ce sont en fait des structures financées par l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, qui sont portées par l'Université de Lyon, dans le cas des LabEx présents à Lyon. Et parmi les 3 LabEx impliqués, nous avons DevWeCan, qui s'intéresse au développement de nouvelles cibles thérapeutiques contre le cancer, et qui vise aussi à créer un pôle international à Lyon. C'est un LabEx qui est porté par Patrick Mellen, qui est co-directeur du Centre de cancérologie de Lyon. Nous avons également EcoFect, qui lui s'occupe de dynamiques coévolutives des maladies infectieuses. En fait, plus simplement, l'objectif est de trouver des traitements innovants contre les maladies infectieuses. Donc là, c'est un LabEx qui est porté par Dominique Pontier du laboratoire de biométrie et biologie évolutive et également par François-Loïc Cosset, qui est directeur du Centre international de recherche en infectiologie. Et enfin, le 3e LabEx, c'est le LabEx Prime, dont l'objectif est de développer des nouvelles méthodes pour l'exploration, le diagnostic et la thérapie du cancer et des pathologies associées au vieillissement. C'est un LabEx qui est porté par Françoise Perrin du laboratoire Creatis et par Denis d'Auvergne, qui, lui, est à l'Institut de physique nucléaire de Lyon.
Alors, peut-être pour les auditeurs, on va expliquer un petit peu ce que c'est qu'un LabEx, finalement, comment ça se passe concrètement.
Alors, concrètement, donc, ce sont en fait des regroupements d'équipes. Ça peut varier entre 5 équipes et 22 équipes. Donc, c'est très diversifié en fonction des LabEx et en fonction de par qui ils sont portés. Donc, ces laboratoires sont présents sur tout le territoire national. Et ce sont donc des groupements de laboratoires qui travaillent sur une même thématique et qui visent à développer de nouvelles recherches qui soient très innovantes sur des thématiques donc particulières. Il y a aussi des aspects formation très importants. Donc il y a beaucoup de doctorants ou de masters qui sont payés par ces LabEx. Et aussi des aspects valorisation, dont justement le partage des connaissances et le développement, la mise en place d'événements au grand public.
Et tout ça, c'est sur le campus de Lyon 1
hein. Alors, il y en a un peu partout.
Il y en a partout,
À Lyon, il y en a 12. Il y a 12 LabEx qui sont portés par l'Université de Lyon, et dont une partie se trouve effectivement sur le campus de Lyon 1, qui est un grand campus, le campus de la Doua, mais il y en a ailleurs.
Et alors, vous travaillez du coup depuis quelques années avec l'association Les Maisons du Paris, que vous allez nous présenter.
Oui, tout à fait. Alors, l'association Les Maisons du Paris, son objectif principal, c'est d'accompagner et de loger les patients et leurs familles à moindre coût sur l'agglomération lyonnaise. Donc, l'idée principale, c'est de permettre à des personnes qui n'auraient pas les moyens d'être logées, d'accompagner leurs familles à moindre coût. Cette association, donc là, elle travaille pour ses projets avec les LabEx, que Béatrice Rayet vient de vous présenter. Et l'idée, c'est vraiment de rapprocher le chercheur du patient, de les mettre en dialogue.
Et comment ça s'est passé? C'est quel, qui a eu envie de rejoindre qui? Enfin, qui a proposé un petit peu la coopération?
Alors, aux origines, le LabEx DevWeCan est venu nous chercher. Donc, est venu chercher l'association des Maisons du Paris pour une première collaboration. Et à cette occasion,
auquel s'est joint le LabEx Prime. Oui. Donc, nous avons un premier événement grand public en 2013.
D'accord. Et alors, dans le cadre de la fête de la science, vous allez proposer conjointement plusieurs événements.
Oui, donc nous proposons 2 cafés débats qu'on a appelé une dose de science dans votre verre. En fait, on a déjà eu 2 cafés débats au mois de juin qui ont été très intéressants. L'un portait sur le financement de la recherche et l'autre sur les résistances au traitement. Et donc, dans le cadre de la fête de la science, nous en avons un premier le 7 octobre qui traitera de l'art et la thérapie, donc Camille va vous parler, et un deuxième le 14 octobre qui, lui, va traiter des outils de diagnostic, donc aussi bien l'imagerie médicale que tout ce qui est outils de dépistage. Donc si je vais un peu plus en détail, donc on a vraiment deux grandes thématiques qui seront abordées ce jour-là, donc que ce soit l'imagerie médicale avec les différentes modalités, hein, l'IRM, les rayons X, la TEP, donc de savoir comment fonctionnent ces différentes modalités, à quoi elles servent, est-ce qu'elles sont associées à une pathologie en particulier, quelle est l'innovation dans l'imagerie médicale, etc. Et sur un deuxième volet, c'est vraiment de parler des biomarqueurs, de la médecine personnalisée, mais quels sont ses avantages, mais quels sont aussi les risques. Est-ce que tout le monde va pouvoir profiter de ces nouveaux outils diagnostiques? Quels sont les risques encore, je me répète. Et donc, nous aurons deux intervenants, qui sont David Cox, du Centre de recherche en cancérologie de Lyon, et Olivier Boeuf, qui lui est du laboratoire Creatis. Donc, on va pouvoir aborder ces différentes thématiques.
Alors Camille, vous voulez nous parler un petit peu du Café Débat lorsque l'art rencontre le patient ?
Voilà, tout à fait. Alors ce Café Débat, il se tiendra le 7 octobre, de 18h30 à 20h au Cintra, métro Cordelier à Lyon. Donc l'entrée est gratuite et nous serons ravis de vous accueillir. Ce Café Débat, il a vraiment pour objectif d'interroger l'acte créatif dans un processus de soins. À quel moment et pourquoi il est pertinent de se mettre en création. Qu'est-ce que ça met en mouvement chez l'individu de créer lorsqu'il y a des problématiques qui peuvent être d'ordre psychique ou alors somatique. Donc c'est un café-débat qui veut interroger les médiations artistiques à visée thérapeutique. Plus vulgairement, comme on l'appelle souvent, qu'est-ce que l'art-thérapie? Quelles sont ses applications? De quoi on parle quand on parle d'art-thérapie d'ailleurs? C'est un mot assez galvaudé aujourd'hui, de quoi il est question? Et est-ce que la pratique artistique peut accompagner la démarche de soins réellement? Est-ce qu'elle a des effets, des résultats? Voilà, donc ce sont ces questions qui vont être abordées par deux intervenantes, que sont Patricia Attigui, donc qui est psychologue, psychanalyste et professeure à l'Université Lyon 2, et qui a beaucoup pratiqué en fait des ateliers à médiation artistique théâtre en hôpital psychiatrique, et Laurence Claire, qui est artiste plasticienne et qui, elle, intervient dans des institutions hospitalières, en milieu carcéral, à l'école, en maison de retraite, etc. Voilà, donc regard croisé autour de ces deux femmes.
Donc le 7 octobre, à partir de 18h30.
De 18h30 à 20h au Cintra.
Alors on va parler un petit peu des autres projets que vous avez ensemble.
Oui, nous avons aussi une exposition d'imagerie médicale qui est également donc au Cintra et qui va englober les deux cafés débats des 7 et 14 octobre. Et en fait, il s'agit d'une série de clichés réalisés à partir de différentes modalités donc d'imagerie. Et c'est très intéressant à voir. En fait, ce sont des clichés qui sont issus du laboratoire Creatis, qui est donc le centre de recherche en acquisition et traitement de l'image de Lyon. Et ce sont des clichés. Chaque année, en fait, il y a un petit concours au sein du laboratoire Creatis pour la plus belle photo. Et là, nous allons vous présenter toutes les photos depuis 1996 qui ont gagné ce petit trophée interne au laboratoire chaque année. Donc c'est tout à fait intéressant de voir l'imagerie médicale de cette façon-là.
D'accord. Eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'être venu un petit peu présenter à la fois vos projets, vos structures.
Merci à vous.
Écoutez, j'espère que ça sera une belle fête de la science.
Merci.
Brume défriche pour vous l'actualité culturelle. Tout de suite, les magazines. We'll be right back.
across my lips reminds me of life after this. Have we forgotten our innocence? Are we lost in ignorance? We choose. We choose.
Brume 90.7, suite des entretiens consacrés à la fête de la science. Et nous avons maintenant le plaisir de recevoir Raymond Sadin, qui est membre du planétarium itinérant Léo Lagrange et qui est astronome de son état. Bonjour à vous.
Bonjour.
Écoutez, je vais vous laisser tout d'abord un petit peu présenter le planétarium itinérant Léo Lagrange et puis aussi vous en tant qu'astronome.
Oui, alors le planétarium Léo Lagrange, itinérant Léo Lagrange, le mot itinérant veut bien dire ce que ça veut dire. Donc c'est une structure itinérante avec des planétariums mobiles pour faire découvrir le ciel, enseigner, et planétarium mobile donc pour public, on va dire handicapé aussi, mobilité réduite, et puis public classique, normal. C'est aussi des ateliers scolaires dans l'éducation et le loisir et l'événementiel. Alors moi, de mon côté, je m'occupe de ce planétarium, je suis responsable de la Fédération Léo Lagrange. Et je suis membre de la Société Astronomique de France et aussi collaborateur de la revue Astronomie Magazine. Voilà mon métier.
Et alors, vous avez une spécialité, vous, particulière? Comment ça se passe quand on est astronome? On étudie tout? Ou au bout d'un moment, on se dirige plus vers tel ou tel endroit du ciel, on va dire ou,
Astronome, c'est diversifié, puisque les astronomes, il y a plusieurs branches. L'astronomie, il y a ceux qui font de l'informatique pour piloter les télescopes, d'autres qui étudient les planètes, d'autres les galaxies, l'histoire. Et mon côté, c'est plutôt l'histoire et la Lune aussi. Beaucoup, je travaille beaucoup sur la Lune, on va dire, en étant sur Terre, mais sur la Lune. Et donc, moi, c'est plutôt le côté histoire. Donc, c'est pour ça que les interventions que j'anime sont très encadrées, très calées dans l'astronomie, mais aussi la mythologie et l'histoire de l'astronomie.
Et alors, comment ça se passe pendant l'année, justement, avec Léo Lagrange? C'est vous qui vous déplacez? Des fois, c'est les gens qui viennent aussi? C'est des enfants? C'est un petit peu tout type de public, finalement?
C'est tout type de public. Donc, j'ai des ateliers. Nous, on a des ateliers dans le cadre du planétarium Léo Lagrange qui vont de moyenne section maternelle jusqu'à universitaire, public adulte, motivé. Même des astronomes ou des physiciens, des fois. J'interviens, des fois. Donc, c'est vraiment très diversifié dans l'éducation, le loisir et l'événementiel.
Et vous vous déplacez jusqu'où à peu près?
Très très loin. Voilà, c'est très très loin. C'est relatif, on va dire sur la France déjà entière. Et puis la Suisse un peu, où je suis identifié. On travaille beaucoup à Lausanne, Genève, Suisse romande. Et puis la Catalogne aussi.
D'accord. Et alors ces projets-là, c'est plutôt des ateliers sur du court terme, un après-midi ou une demi-journée? Ou ça peut être des stages, des choses plus longues, aussi plus approfondies?
Vous avez pratiquement fait la réponse. Ça va d'une intervention ponctuelle qui peut aller de une heure ou une conférence, ou ça peut aller donc sur des cycles d'ateliers dans des écoles, un collège ou lycée, beaucoup plus long. Il peut s'étaler sur plusieurs jours, deux jours, une semaine, etc.
D'accord. Écoutez, du coup, on va parler de l'événement Fête de la Science. Donc pour vous, ça sera les 11 et 12 octobre que vous allez organiser sur Villeurbanne des animations.
Oui, alors sur Villeurbanne, pendant un week-end, le samedi 11 octobre et le dimanche 12, nous allons proposer des séances de planétarium, mais bien ciblées, on va dire, grand public, familial. Ça n'empêche pas aux individuels de venir, mais c'est vraiment axé sur le familial, c'est astronomie et mythologie. Donc c'est une manière de découvrir le ciel à travers les constellations et le conte et en même temps on fait de la science, de l'astronomie. Et puis avant ou après cette séance, hein, c'est des créneaux de 1h30 à peu près, l'intervention, l'animation, et il y aura un petit atelier d'observation solaire, hein, voilà, pour les familles avec des astronomes qui ont des petites lunettes derrière, dans la cour on sera installés.
Et alors, vous pouvez nous donner un exemple comme ça de conte, on va dire, pour un petit peu présenter aux auditeurs ce que c'est que ces constellations qui sont en même temps issues de contes.
Alors, les contes, je suis conteur aussi, donc mon métier à côté, parce que je suis autant d'astronomie que de mythologie, on va dire. Donc, je compte l'origine des constellations du ciel, l'ossature de la carte du ciel, à peu près 40 constellations, pour faire simple, sont très anciennes. Donc, j'ai beaucoup étudié leur origine et les cultures qui les ont inventées, comment elles se sont développées dans l'histoire et surtout les légendes qui sont associées. Mais les légendes, on va dire, les plus anciennes. J'ai barré un peu, on va dire, les Romains, les parties romaines, c'est plutôt des origines grecques, crétoises, grecques archaïques, voilà. Donc retrouver ces légendes, retrouver le support, et puis les conter aux enfants, aux adultes, voilà ce que je fais.
Et ça peut être quoi, par exemple? On peut vous donner un exemple comme ça d'une constellation qui aura une...
C'est souvent des groupes de constellations. Alors, quand je travaille dans le Dauphiné, je raconte le dauphin, c'est évident.
Ben voilà, voilà, par exemple, racontez-nous ça.
Non, je préfère plutôt raconter celle du Dauphiné, intéressant, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a Vienne, puis ici Fourvière, ici Romain. Le dauphin, donc c'est une légende très méditerranéenne, avec un poète sauvé par des dauphins... qui leur doit la vie, hein, et ces dauphins ont été remerciés par les dieux. Le dauphin et les dauphins qui ont sauvé ce poète, qui s'appelait Arion, pas Orion, pas confondre, donc ont été récompensés en ayant un des leurs dans le ciel étoilé. Les dieux les ont remerciés, bien sûr, ils ont puni les pirates qui avaient voulu voler Arion et son trésor.
Moi, ça, j'imagine aussi que c'est un beau chemin pour parler aux enfants, ou ça doit un petit peu favoriser ça, ces contes.
Disons que les mythologies, c'est pas des petits contes, je vous assure, il y a des légendes sont énormes, sont très grandes, hein. Comme celle d'Hercule, par exemple, Héraclès. En fait, c'est l'imaginaire. L'homme a projeté dans le ciel son imaginaire. Et à travers les constellations, on permet de retrouver cet imaginaire, de le faire partager. Et ça donne au public, petit et grand, un attrait différent vis-à-vis du ciel. Ce n'est pas l'aspect scientifique, mathématique, chiffré avec des équations. C'est vraiment du rêve. C'est un retour dans l'humanité, le fond commun qu'on partage dans nous. Et voilà, donc ça fait du... Ça donne un moment de rêve, de détente, tout en étant culturel, éducatif, et ça donne vraiment l'envie après aux enfants d'aller voir, je sais pas, ils veulent voir le personnage, ils veulent le voir Hercule, il faut le dessiner dans le ciel, c'est voilà, il y a l'imaginaire en plus.
Alors on va donner peut-être quelques indications un petit peu pour justement les gens qui voudraient s'inscrire aux ateliers, ça peut se retrouver sur le site internet.
Ah oui, vous pouvez retrouver des informations sur le site internet www.planetarium-itinerant.org. Ou sinon, téléphoner au planétarium directement, hein, si le numéro de téléphone est en 06 70 25 81 26.
Ok, écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas d'être venu présenter ce projet.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Brume défriche pour vous l'actualité culturelle. Tout de suite, les magazines.